une nouvelle semaine que nous allons débuter et passer ensemble avec un de ceux qui sont des habitués hein, de ce rendez-vous destination. C'est Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de Tourisme de Limoges et qui va nous permettre de découvrir, alors là, un vrai pan de l'histoire de Limoges pour le coup, puisque nous allons parcourir l'histoire et parcourir concrètement le quartier de la Boucherie. Mais peut-être pour l'instant, un retour aux origines d'une manière générale de ce quartier de la Boucherie qui donc a marqué et marque encore aujourd'hui l'histoire de Limoges, Éric.
C'est le quartier qui évoque beaucoup de choses. Si on veut voir du pittoresque dans Limoges, effectivement, c'est ce quartier-là qu'il faut voir. Alors, c'est un quartier qui est lié à un métier, effectivement, boucher. Alors, boucher, pour nous, aujourd'hui, le boucher fait un petit peu tout, mais il fallait distinguer différents métiers dans le travail de la viande, les bouchers, les charcutiers, les tripiers. Charcutier, c'est la chair à cuire, tripier, c'est les abats, ce qu'il y a dans le bide. Et puis, la boucherie, c'était le tueur de bouc, du bouc, la viande. C'était le muscle, les meilleures parties. Donc, tout ça, ce n'était pas confondu, mais on pratiquait la viande. Donc, ce qui se passe à Limoges, c'est ce qui se passe dans toutes les villes médiévales de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que dans les villes, on réunit les métiers géographiquement. Corporation. Les corporations à Limoges vont être à la fois le travail du cuir qui va être dans un coin de la ville, le travail du fer, du métal dans un autre coin. Et le travail de la boucherie, on pense pendant un temps, était aussi un petit peu peut-être à l'écart. On le mettait dans l'entre-deux villes parce que c'est des activités polluantes. Ce qui va se passer pour Limoges, c'est qu'au XIIIe siècle, on va construire un nouveau rempart autour de la ville haute, c'est-à-dire la ville du château. Pour nous, le quartier des Halles aujourd'hui. Et en construisant ce nouvel enclos, si je puis dire, on va dire ces remparts, eh bien on va intégrer de nouveaux territoires et on va attitrer un de ces territoires au boucher, et non loin du château justement.
C'est pas un hasard forcément.
C'est pas un hasard parce que les liens entre les autorités, à la fois du château, mais surtout les autorités municipales qu'on appelait le consulat. Il y a une rue du consulat à Limoges, donc les consuls étaient très en lien avec les représentants de chacune de ces corporations, puisque on avait nommé un chef qui voyait avec le consul le prix, les denrées, les modalités en fait d'abattage. Donc il y avait toute une série comme ça de règlements qui étaient vus à la fois par l'autorité et par le représentant du métier. Donc à Limoges, on s'installe dans ce quartier au XIIIe siècle et donc aujourd'hui, on a perpétué, au moins dans l'architecture et puis dans une façon d'apprécier la vie, ce quartier-là. Les phénomènes de corporation, justement, à la Révolution française, il y a une loi importante qui, justement, ordonnait à ce qu'on dissout ces corporations. À Limoges, malgré cette suppression de statut, eh bien, les bouchers vont continuer à investir ce quartier, à vivre dans ce quartier. Alors, c'était d'autant plus vrai que souvent, les bouchers sont des gens qui sont assez fiers, qui sont assez importants, influents dans la ville, relativement aisés. Et ça demandait un outil de production, une boucherie. Et donc, ils vont garder aussi le quartier en procédant à des mariages entre les familles. Alors, en recevant des gens de plus loin parfois, mais quand on regarde un petit peu les registres de la fin du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, on tombe sur des cibots, sur des parots, sur des pleines maisons, des juges, des pourrés et autres, ceux qui ont fait un petit peu l'histoire de ce quartier, les grandes familles bouchères.
Qu'on va retrouver évidemment, notamment au cimetière de Louga par exemple, c'est des noms de famille qu'on va retrouver régulièrement.
Exactement, on trouve des carrés familiaux de bouchers et on retrouve d'ailleurs au cimetière des allusions nettes à leur vie de boucher, mais aussi à des insignes qu'ils pouvaient porter à l'occasion de cérémonies religieuses.
Et on va se balader dans le courant de la semaine et on va voir qu'il y a plein de petites marques, des petits symboles comme ça qui vont rappeler l'histoire et sur lesquels on ne prête pas forcément attention hein, si on n'a pas l'œil de l'expert que nous avons nous tout au long de cette semaine. Ce quartier aujourd'hui, il a quelle place dans le cœur des Limousins? On connaît tous le quartier de la Boucherie, hein, on a l'impression que voilà, ça fait partie de notre quotidien. Est-ce qu'on le connaît vraiment si bien que ça? Pour tout dire, là on est installé nous dans un petit endroit que je n'avais jamais fréquenté en presque 40 ans. Vous avez la sensation qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir même pour les Limousins?
Oui. Tout à fait, je pense qu'on n'a jamais fini de connaître sa ville. Et justement, les amoureux de patrimoine seront comblés dans ce quartier-là qui est coincé entre les Halles. Et puis, on descend plus bas en direction de la mairie. Mais ce quartier, finalement, aujourd'hui, alors je dirais qu'il est fréquenté de plus en plus. Mais on n'a pas ici un commerce très journalier, comme des commerces de bouche du quotidien, je pense à une boulangerie, ce qui fait qu'au quotidien, on peut se promener dans ce quartier de façon hyper paisible. Des fois, en traversant les petites venelles, les petites ruelles ou les charrérons, comme vous voulez, on peut les appeler tout ainsi, on peut se retrouver seul. Et si vous passez là le soir, vous pouvez être plongé dans le passé ou dans votre imaginaire. Parce que dès qu'on rentre, on voit s'élever autour de nous toutes ces maisons à poteaux, à pans de bois, qui sont assez typiques de ce qu'a pu être le vieux Limoges.
Donc voilà, on a vraiment l'impression de remonter le temps, et on va le faire tout au long de la semaine. On va, nous pour l'instant, demain, partir du côté de la chapelle, et puis on reviendra se balader ici justement en parcourant ces petites rues, ces ruelles, ces places, pour aller y découvrir quelques-uns des différents secrets. Mais pour l'instant, direction la chapelle, et ça se passe demain. Et c'est notre deuxième rendez-vous de cette semaine à la découverte du quartier de la Boucherie, quartier vivant, hein, historique mais vivant, et vous l'entendez derrière nous, puisqu'il y a quelques commerces, hein, quelques bonnes tables, notamment on aura l'occasion d'en parler en fin de semaine. On est toujours avec Eric Bouteau, le guide conférencier de l'Office de Tourisme à Limoges. Et alors là, on va s'arrêter sur un endroit important de cette histoire. On est à côté de la chapelle Saint-Aurélien, place Saint-Aurélien.
La mythique chapelle Saint-Aurélien, qui se découvre simplement quand on se rapproche, parce qu'il se trouve que le clocher est à peine plus haut que les toits qui l'environnent. Et c'est déjà une forme de charme, je trouve. Alors, elle est un petit peu comme un refuge. Elle est très accueillante, puisqu'on peut y rentrer quotidiennement. Et il faut savoir que c'est une chapelle qui est privée, et son entretien est réalisé par la confrérie Saint-Aurélien, par les membres confrérie Saint-Aurélien. Alors cette petite chapelle, vous entendez derrière nous, il y a des terrasses juste à côté.
Il fait beau forcément, donc.
Bon, on n'est pas si mal ici. Donc il y a une très grande porte surmontée par un cartouche qui nous indique la date de 1775. Nous sommes au 18e siècle. Et puis au-dessus de l'horloge, il y a aussi un autre cartouche. Mais celui-là nous indique une date du milieu du 17e siècle. Alors, se sont-ils confondus ? Alors non, simplement, ce sont des dates qui correspondent à des travaux successifs. La chapelle en elle-même, elle est d'aspect intérieurement gothique, avec des croisées d'ogives. Donc il y a eu quelques remaniements, mais en tout cas, cette façade, elle se lit et elle est intéressante, puisqu'on voit notamment des armoiries de famille de boucher autour de la petite horloge, la famille Cibot et puis la famille Juge. On aperçoit à droite de l'entrée un socle en granit avec une des plus anciennes évocations du passage de Saint-Jacques de Compostelle ici, une coquille, vous pourrez voir, sculptée, surmontée elle-même d'une très belle croix en calcaire avec les 12 apôtres et qui se termine là-haut par le Christ sur la croix. Alors, en ce qui concerne la grande croix ainsi que le socle, n'était pas ici au Moyen-Âge, hein. Était au couvent des Carmes, place des Carmes. Et donc, à la Révolution française, les bouchers ont voulu préserver ce monument qui allait être peut-être vendu, ou on l'aurait perdu finalement. Donc ils l'ont acheté et ils l'ont importé ici pour qu'on puisse l'admirer.
Voilà, deux symboles, donc c'est ce qui est faisable en venant donc, ici devant cette chapelle Saint-Aurélien. Alors nous, on va pousser la porte de la chapelle puisqu'elle est accessible.
Allons-y.
Ça devrait être un peu plus calme a priori. Alors on change d'ambiance, évidemment, on va se faire un peu discret, puisque nous sommes maintenant installés à l'intérieur de cette chapelle Saint-Aurélien. Alors avant peut-être de décrire tout ce qui se trouve autour de nous, il y a mille et une choses, on n'aura pas le temps de tout évoquer, évidemment l'idée c'est de venir le voir par vous-même, mais d'abord peut-être une explication de qui dit chapelle Saint-Aurélien, dit Saint-Aurélien, qui était-il ?
Aurélien a vécu en même temps que Saint-Martial. Saint-Martial, il est le premier évêque de la ville. Saint-Aurélien était un adversaire de Martial, il était un prêtre païen qui condamnait cette religion nouvelle. Et Aurélien a été foudroyé et tombé sur place comme mort. Et il a été ressuscité, il est revenu à la vie par l'intercession du Saint-Martial. Alors, sa vie a complètement été bouleversée et il a pris le parti de servir ce Dieu nouveau, le Dieu des chrétiens. Et Martial, voyant ses forces diminuer, choisira Aurélien comme son successeur. Et donc, dans la tradition chrétienne locale, il se trouve que Saint Aurélien est le deuxième évêque après Saint Martial du diocèse de Limoges.
Il y a donc l'église Saint Martial, il y a la chapelle Saint Aurélien.
Saint Aurélien, dont
Les reliques, c'est-à-dire les ossements, se trouvaient pendant longtemps dans une chapelle qui était à l'extérieur de la ville, qui était la chapelle Saint-Cessateur. Au XIVe siècle, il va y avoir un phénomène de translation, c'est-à-dire qu'on va amener les reliques depuis cette chapelle vers l'intérieur de la ville, là où se sont installés les bouchers. Le patron des bouchers devient naturellement Saint-Aurélien, ils l'ont choisi comme tel. Et ils vont ériger cette chapelle, qui aura des modifications, mais pour vénérer ce saint homme. Alors, cette chapelle aujourd'hui est une chapelle relativement simple dans son plan. Il y a une nef, un couloir, et un chœur qui est clôturé. En levant la tête, on voit les départs des voûtes, les croisées d'ogives, et les clés de voûte sur lesquelles figurent parfois les armoiries de boucher. Dans le chœur, il y a un magnifique retable qui date du XVIIe siècle, qui est de style baroque, qui est donc, selon son style, assez chargé, richement décoré. C'est du bois, recouvert de feuilles d'or, des statues, Saint Martial, Saint Aurélien, des cariatides, des feuilles de vigne, des pampres, des anges, des tiennes, des bouquets de fleurs, bref. Le secret se trouve au centre. La plupart du temps, en venant dans la chapelle Saint Aurélien, vous verrez un tableau, qui est la transfiguration du Christ. Ici, c'est la reproduction de l'œuvre de Raphaël. Elle se décale. Il y a un système, puisque le tableau cache une grille, un décor de théâtre qui est peint. Tout cela s'ouvre et on peut observer à ce moment-là un grand coffre, une châsse. Cette châsse, à l'occasion des grandes ostensions limousines, c'est-à-dire tous les 7 ans, sera ouverte. À l'intérieur, il y a le buste de Saint Aurélien en argent, dont on peut rabattre la mitre, c'est-à-dire la coiffe. C'est un peu un système de poupée russe, hein, ce que je vous dis. Depuis le départ, on a ouvert beaucoup de choses. Et on arrive à la calotte, le crâne d'Aurélien, qui, en 2016, à l'occasion des ostensions, avait été présenté à ceux qui le voulaient bien et sorti dans la rue. Voilà le secret de cette chapelle.
Et puis, il y a d'autres éléments également à découvrir ici.
Les couleurs des bouchers, le vert et le blanc, qu'on retrouve sur les cocardes, les drapeaux, ci et là. Et
qui rappelle peut-être quelque chose à l'heure d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on est bien loin de penser à ça lorsqu'on voit un dunk d'un joueur américain du CSP. Mais le CSP, c'est quoi? C'est le cercle Saint-Pierre. Saint-Pierre. Connotation quelque peu, on va dire, à l'origine religieuse, puisque le club a été créé dans le système de patronage, donc avec un encadrement fait de laïc, mais aussi de religieux. Près de l'église Saint-Pierre du Carrois, d'ailleurs, hein. Les joueurs ont fait le choix de prendre pour couleur de maillot les couleurs des bouchers. Et donc le vert et le blanc des basketteurs viennent à l'origine d'un choix fait par rapport aux couleurs des bouchers. Le lien est difficile à faire, donc, mais il existe.
Et vous le connaissez, vous pouvez le raconter, et puis on va peut-être se décaler parce qu'il y a aussi un élément très important.
Ah oui, il y a une statue fantastique.
Il y en a beaucoup, mais une particulièrement.
Alors, il y en a beaucoup qui ont un grand intérêt stylistique, mais celle sur laquelle on s'arrête le vaut pour son caractère inédit. Nous avons 3 personnages, Anne, Marie, sa fille, l'enfant Jésus, l'enfant ici qui détient dans sa main un petit quelque chose qu'il porte à la bouche. Je vous le donne en 1000, c'est un petit morceau de viande, et selon la tradition, c'est même un rognon de mouton. Donc Jésus mâchouille la viande, comme l'aurait fait peut-être un enfant du quartier qui avait la récompense de petits morceaux de viande ou de saucisson s'ils étaient sages. Alors on l'a rebaptisé la Vierge au rognon, Notre-Dame du rognon.
Voilà, et vous ne pourrez pas la manquer hein, quand vous rentrez dans cette chapelle Saint-Aurélien, elle sera sur votre gauche et c'est l'une des curiosités, mais encore une fois il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir, plein de détails, il faut prendre le temps de tout regarder. Nous on va repartir en balade hein, puisque nous allons flâner justement dans notre rendez-vous de demain, dans les rues, dans les ruelles, dans les places. On va prendre les chemins de traverse, on a des petites ruelles mystérieuses et secrètes.
N'avez pas peur.
Je vais tenter de me rassurer, je vais suivre le guide et ce sera donc à partir de demain. La nuit n'est pas encore prête à tomber, donc ça va, on va en profiter, ça se passe demain. Même endroit, même heure. Et notre troisième rendez-vous cette semaine à la découverte du quartier historique de Limoges, le quartier de la Boucherie, que nous parcourons avec notre guide Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de Tourisme de Limoges. Je le rappelle, nous avons quitté la chapelle Saint-Aurélien dans laquelle nous nous trouvions hier. Alors, elle est encore en vue puisque nous sommes finalement passés derrière, un petit peu en hauteur, dans une rue qui n'a pas de nom. C'est une rue secrète, mystérieuse de Limoges finalement.
un fameux passage que je vous propose. Et j'aurais proposé ici à un peintre de venir poser son chevalet, parce qu'il y a une vue qui est assez fantastique à travers les frondaisons de ce petit jardin aménagé. On est face en fait à ces jolies tuiles canales, ces tuiles courbes qui sont assez propres à notre Val-de-Vienne. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir tous ces étagements successifs, ces plans.
Il faut venir ici pour vraiment avoir cette vue magnifique et se rendre compte de tout le travail qui a été fait sur cette chapelle Saint-Aurélien.
Et notamment au niveau de son clocher, avec tout un bardage, justement en bardeaux de châtaignier. Et ce petit clocheton qui accueille cette petite cloche qui sonne de temps en temps. Et puis quand on est là, on peut être un peu ombragé par les grands immeubles qui dans notre dos bouchent le paysage.
Ils semblent pas de la même époque.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ils ont le mérite de nous couper un petit peu du tumulte citadin, parce qu'ici on n'entend pas les voitures qui sont pourtant toutes proches du boulevard Gambetta.
On entend juste les terrasses des cafés animés.
On entend les rires. Il y a de la jeunesse ici. Ouais. Et puis au moins ça nous permet d'imaginer que derrière nous, justement à la place de cet immeuble, se trouvaient autrefois des remparts, les fameux remparts de Limoges, qui était possibilité pour la population d'être défendue, mais aussi de voir loin pour faire le guet. Et au milieu de ces remparts, à certains endroits, on trouvait de grandes portes d'entrée qui étaient surveillées et qui devaient de temps en temps voir passer les cortèges d'animaux élevés à la campagne et qui entraient ici vers les lieux d'abattage et les lieux de vente. Quand on vient dans ce quartier, il faut observer un petit peu, il faudrait venir aussi avec le fil à plomb.
À vue d'œil comme ça, il y a un souci.
Voilà. Donc les amoureux de l'angle droit ici n'auront pas leur compte. En revanche, bon là encore, hein, mais je reviens toujours à mon histoire de charme, c'est que ces maisons, c'est vrai, ont un devers entre le haut et le bas de parfois 15 cm, voire plus. Tout est un petit peu décalé, hein. Les maisons à pans de bois jouent. Alors on imagine les planchers un peu à l'intérieur qui aussi parfois sont un peu bombés. Mais là aussi, on est sur des bâtisses qui ont plusieurs siècles d'existence. Alors le bâti, à proprement dit, n'est pas médiéval. On a procédé au XVIIIe siècle à des grands plans d'alignement à Limoges, ce qui fait que beaucoup des façades ont été reconstruites. Puis le pan de bois, au Moyen-Âge, devait monter à une moindre hauteur. Ici, on est quand même sur des élévations assez hautes. Alors à Limoges, c'est en 1864, suite à un incendie important, non loin d'ici d'ailleurs, entre la place d'Aisne, le tribunal, et la place de la Motte. C'est à cause de cet incendie qui a été ravageur qu'on a pris la décision d'arrêter de construire les maisons à pans de bois. Donc ici, on a quand même conservé toute une façon de bâtir de notre ville suite aux arrêtés municipaux.
On conserve une trace effectivement de l'histoire. Et puis alors, c'est une invitation à la balade, hein, finalement, à la flânerie ici, sur ces petites routes pavées. Encore une fois, on est un peu seul au monde, tranquille, parce que ça fait pas partie des rues les plus fréquentées, parce que pas les plus commerçantes non plus de Limoges. Et il y a mille et un secrets, il suffit de lever le nez ou à l'inverse de regarder un petit peu au sol et de découvrir plein de petites choses.
Oui, je vous invite à regarder les angles des maisons. Vous trouverez parfois des petites pierres levées qui sont des chasse-roues. Alors, ces pierres étaient destinées, lorsque c'était les charrettes qui circulaient ici, à protéger un petit peu les murs des accidents ou des chocs que cela pouvait entraîner. Et ça permettait aussi, pour manœuvrer, d'envisager le gabarit de passage dans ces ruelles.
Donc là, justement, il y en a à côté de nous qui protègent aujourd'hui les boîtiers EDF, donc ils sont bien contents de les trouver.
Voilà, mais quand on commence à les regarder, on en voit un, puis après on se met à en voir 2, 3, 4, 5. C'est le genre de détail qui est révélateur.
Voilà, et auquel on prête absolument pas attention en temps normal.
Exactement.
Si on ne nous a pas attiré l'attention dessus. Et puis là, on est revenu donc sur notre point de départ finalement dans le rendez-vous de lundi, avec aussi un monument qui retient l'attention.
Oui, on est place Barrérette. C'est une place qui est vaste aujourd'hui, mais elle est vaste parce qu'on a démoli tout un tas de maisons pour libérer l'espace. Alors, ce qu'on voit au milieu, effectivement, c'est une immense pierre levée qui ressemble à un menhir. Cette pierre n'est pas l'originale. On a installé cette pierre en référence à une toponymie ancienne, sur plan ancien, qui nous racontait qu'ici on était dans le bois de la pierre levée. Et qu'ici se tenait une pierre qui était à l'époque une limite de juridiction. Alors pour se rappeler ce passé, eh bien on a érigé cette pierre qui est monumentale, granitique. Et puis pour y accéder, on peut de la rue Gondinet emprunter la rue Huchette, du nom des Hucheurs qui étaient les crieurs qui annonçaient un certain nombre de choses dans les foires. Et vous la longerez en rejoignant la rue de la Boucherie. Et vous pourrez sortir aussi par des petits passages que j'aime appeler les petits coupes-gorges, même s'il n'y a rien de menaçant, je vous garantis. Et cherchez-les dans la rue de la Boucherie. Il y a comme ça, entre deux immeubles, deux maisons, des passages d'un mètre cinquante, deux mètres de large.
Ouais, ça, avec les perspectives, on ne les voit pratiquement pas. Et puis quand on y prête attention, effectivement, en se décalant un petit peu, ils apparaissent.
Ah, c'est un urbanisme d'antan. On retrouve aussi des barreaux. Des barreaux anciens au niveau des ouvertures. On voit des soupiraux, des ouvertures vers des caves. Parce qu'ici, les caves sont nombreuses pour entreposer les viandes. Et là, rejoignant le cœur de la boucherie, on voit les devantures des boucheries. Et qui sont assez typiques. Parce que c'était très aéré. On trouve des grilles comme ça dans les parties hautes. On trouve les petits étals sur lesquels on présentait la viande. Et on trouve souvent des petits crochets où on pouvait suspendre les morceaux, les quartiers de viande. Cette rue de la boucherie, la principale, est une rue qui est en pente. Et on l'appelait autrefois la rue Torte, comme peut-être le ruisseau. Il y a toujours eu un écoulement ici, un écoulement d'eau, qui venait depuis la place de la Motte, où au Moyen-Âge se trouvaient des viviers à poissons et des fontaines. Comme on est en contrebas, on pouvait ouvrir les bondes de l'étang pour déverser de l'eau, qui nettoyait ainsi le quartier de temps en temps, qui était particulièrement souillé, comme vous pouvez imaginer. Et arrivé place Saint-Aurélien, on a l'embranchement, soit on poursuit par la rue de la Boucherie, soit on emprunte à droite la rue du Canal. Et le canal, c'est ça, c'est le système d'évacuation. Plus bas, on trouvait une porte qui s'appelait la porte Pissevache. Et on raconte que en dessous du quartier de la Boucherie, eh ben, on trouvait des potagers bien fournis. Parce que l'épandage se faisait quasi naturellement.
Et puis alors, si on est très attentif, il y a des choses aussi sculptées qui sont remarquables et qui font aussi partie de l'histoire.
Sur les murs, toujours, on verra des pierres taillées, sculptées. Et je mets au défi l'auditeur de retrouver ce que c'est. L'animal. Venez au numéro 21 de la rue de la Boucherie et vous allez voir à hauteur d'œil un petit animal de profil.
Voilà, regardez, levez le nez, on le rappelle, parce qu'il y a plein de choses à voir. Et puis, on va s'éloigner un petit peu de la maison de la boucherie dans laquelle on fera une halte demain. Peut-être une dernière curiosité à voir. Et quand on dit Limousin, on pense limousine.
Oui, au numéro 2 de la rue de la Boucherie. Aujourd'hui, on peut venir ici acheter la décoration. Et ben, si vous levez la tête, vous allez tomber sur la tête, le museau de vache. Il y a une buste de vache qui rappelle qu'ici c'était une boucherie, et d'ailleurs en dessous on aperçoit en ferronnerie le nom de Parot Guédé avec la devise Labor omnia vincit improbus suo tempore, qui signifie
on a tous compris, hein, ça oui. Va
un travail acharné vient à bout de tout.
Alors nous, on va revenir au cœur de cette activité bouchère, évidemment, parce qu'il y a la maison de la boucherie, qui est un des lieux de passage incontournables à découvrir lorsque vous serez de passage ici. Mais pour en savoir un petit peu plus, eh bien, il faudra être patient jusqu'à notre rendez-vous de demain. Et c'est notre quatrième rendez-vous au cœur de l'histoire de Limoges et du quartier de la Boucherie, très précisément, que nous parcourons avec Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de Tourisme de Limoges. Et on va rentrer dans un des symboles quand on parle du quartier de la Boucherie. Il y a ici la maison de la Boucherie qui est à découvrir, qui est au numéro 36, très précisément, alors qu'il se visite à la demande à l'année et essentiellement l'été avec des visites guidées. On en reparlera concrètement demain. Ça veut dire que là, c'est fermé. Heureusement, Éric a la clé.
J'ai toutes les clés. Et effectivement, la maison de la boucherie, c'est l'attrait complémentaire d'une bonne visite dans le quartier de la boucherie. Et nous allons pousser pour vous les portes de la maison.
Allons-y.
Déjà, on a perdu quelques degrés.
Oui, c'est ça. La cheminée n'est pas allumée. Il aurait fallu prévenir.
En revanche, on sent encore un petit peu cette odeur fumée, alors que ça fait une trentaine d'années qu'ici, on n'a pas démarré un feu.
Alors concrètement, c'est quoi cette maison de la boucherie ? C'est un musée, un éco-musée, comme on dirait aujourd'hui ?
Oui, un écomusée, un petit musée municipal qui a ouvert avec dans l'esprit de récupérer et de mettre en avant ce patrimoine mobilier des bouchers. Donc il y a eu des prêts, des dons, les confrères actuellement, puis bon, c'est la mairie quand même qui l'entretient et la gère.
Donc là on est concrètement dans ce qui était le magasin de la boucherie.
Première salle, le magasin. Alors en réalité le magasin, il commençait largement en dehors. Quand on regarde les photographies anciennes, on voit les auvents descendus, les étals, on voit les bouchères qui étaient là dehors sur le perron de leur porte et qui alpaguaient le client. Alors une fois passé, on trouve là le comptoir avec la balance qui permet de finir la transaction. Sur la gauche, et on le voit aujourd'hui, le bio, le beau meuble de métier en bois qui sert au travail de découpage des quartiers de viande, avec un outil toujours ici qui est la tendrisseur pour frapper la viande, le fusil, le livre de commande. Et finalement, les bouchers aujourd'hui utilisent quasiment les mêmes outils.
Des choses qui ne se sont pas perdues.
Ça ne bouge pas trop. Et puis ce travail parfois faisait quelques éclats de jus ou de sang et on dressait des draps blancs un petit peu partout pour éviter de souiller les murs. Il y a une grande glacière qui permettait de conserver la viande. Elle date du début du XXe siècle. On installait là-haut les pains de glace qu'on achetait et la viande était conservée ainsi dans le froid. On passe ensuite dans la cuisine qui était celle des bouchers. Donc là, le client n'entrait pas.
On avait deux portes, effectivement, qui la sont ouvertes, mais qui étaient habituellement fermées quand la clientèle était là.
Suffisait de tirer un peu le rideau pour voir le client arriver. On s'arrêtait de souper. Parce que le souper se passait ici.
Et les servis en plus, c'est cool.
Dans les bols, les soupières. Et la louche, où on peut imaginer avec la bouteille de vin, faire chabreau ici.
Et puis la visite se poursuit donc dans une troisième pièce.
Alors, troisième, qui va nous amener à la quatrième, ça c'est le resserre, avec une descente possible dans la cave. Oui, quelques mannequins ici qui peuvent surprendre. Et nous arrivons dans la tuerie, qui est la dernière pièce. Donc pour l'instant, en fait, on est parti de l'entrée rue de la Boucherie, on a fait une ligne droite. Les maisons sont profondes, pas très larges, mais profondes. Et elles sont hautes. Donc derrière cette grande porte qui est devant nous, on sortirait vers la petite rue Charéron. C'était l'entrée des bêtes. Alors, les bêtes étaient abattues. Alors, on tuait surtout le cochon, le chevreau. On ne tuait pas beaucoup de vaches. Et sur la droite, nous avons le berceau, qui est le meuble sur lequel on dépeçait l'animal. Il y a le soufflet pour décoller la peau de l'os. Et il y a le jambier, qui était donc... avec un système de poulie, le système pour lever l'animal. Et ensuite, le fendre avec un outil et ouvrir la carcasse.
Évidemment. Et donc ça, c'est l'arrière-boutique. Et il y a donc un dernier lieu à visiter ici, uniquement avec un guide. Ça tombe bien, je suis bien accompagné.
Alors moi, je vais vous faire monter dans les étages. Petite halte au passage. Pour vous parler de la première salle, c'est la salle où on va trouver dans des vitrines des outils, des objets. Des couperets, des feuilles, des couteaux. On aperçoit aussi une scie, saloir. Et il y a un lardoir pour larder la viande, pour lui donner ce petit côté persillé.
Et puis là, on est face à un plan, parce qu'évidemment, on est à la maison de la boucherie, mais ces maisons de boucher, il y en avait beaucoup, je crois une cinquantaine à l'époque. Et là, tout est répertorié ?
Oui, autour de 1900, il y avait une cinquantaine de bouchers. Nous avons un cadastre qui nous montre finalement que le métier était tenu par un certain nombre de familles. Cibot, Malinvaux, ça apparaît très souvent, pourrait. Leur prénom et aussi leur chaffre. Un chaffre, c'est un surnom. Si vous appelez tout le monde Monsieur Dupont ou Monsieur Martin, c'est embêtant. Il y a bien le prénom.
Aller chez Malinvaux, mais c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup.
Voilà, parce que si tu vas chez Chagrin... ou que tu vas chez Taché, Goudineau, Traiteur, Lagneau, La Parette, Sans Quartier, Napla, Le Nez Plat, Janvieux et autres, l'Aquitaine, il y en a un qui était déjà dans la nouvelle région.
Un précurseur, bravo.
Il y a des précurseurs. En fait, on s'aperçoit très vite que selon leurs caractéristiques physiques, là, il y en a un qui est gros martial, ou selon leur tempérament, ils avaient un petit surnom. Mais ça, c'est très typique, même au Moyen-Âge, on s'appelait Salut le Borgne, comment tu vas le bossu.
Il y a quand même le dragon à qui je ne ferai pas de vanne, du coup celui-là on n'avait pas forcément envie de le taquiner.
Et, on n'a pas l'origine de tous ces chars, mais il y en a qui devaient faire un peu d'ombre. Et quand on allait au foire, on avait ces petits ciseaux, on coupait quelques poils, vous savez, sur l'arrière de la bête. Une fois qu'on avait conclu le marché, on topait. Top là, ça vient de là, tu topes.
Nous on continue la balade, ça paraît tout petit vu de dehors, et finalement c'est beaucoup plus grand.
Et là je viens de pousser la porte d'une chambre, c'était celle de monsieur et madame le boucher, c'est-à-dire les patrons, qui eux avaient un lit bien douillet, les plumes d'oie, le lit en bateau, quelques souvenirs des événements heureux comme le mariage, le bébé qui était né de cette belle union,
et l'escalade continue.
Ouais, ça, c'est la salle consacrée aux affaires religieuses. Les bouchers sont très pieux. À gauche de nous, quelqu'un qui peut effrayer la première fois qu'on le voit. Parfois, on nous parle du Ku Klux Klan. Effectivement, il y a le cône comme ceci. En réalité, c'est le phénomène de confrérie qui était très présent dans notre ville. Donc ici, la tenue qui n'est pas exactement rouge, on l'appelle celui-ci le pénitent feuille morte.
Bon, il y en aura une pensée à tous ceux qui ont dû caler les meubles dans une pièce comme celle-là avec un parquet qui n'a pas une lame parallèle à l'autre.
Et on a grimpé au moins 4 étages. Et maintenant, il va falloir déverrouiller la petite porte en bois, attention à la tête.
Et donc là, nous arrivons dans le fameux séchoir.
Voilà, où on l'appelle aussi le galta, appellation du grenier. Mais sa vocation, c'est le séchoir. C'est pour ça qu'il est grandement ouvert vers l'extérieur. Et on voit des systèmes de poulies. On pouvait faire comme ça un va-et-vient depuis l'espace public, depuis la rue. Là, on est sous le toit, hein, pour bien que les gens puissent s'imaginer. Et quand on est là, on peut caresser le torchis, c'est-à-dire les remplages des murs. Il y a entre chaque poteau le petit lattis de châtaignier. Et on voit très bien ici les fibres végétales et la terre que constitue ce système-là, qui est un bon isolant par ailleurs.
Et on voit effectivement qu'en le touchant, les choses se désagrègent un petit peu. Ça veut dire
détruire la maison.
C'est ça. On sera les derniers à y être passés.
Ne touchez plus.
Mais ça veut dire faire effectivement très attention sur la sauvegarde de tout ce patrimoine.
Oui, qui peut être assez fragile malgré tout. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique, sensibilisation par rapport à ce type de construction. Hein. On voit des poteaux qui ont plusieurs siècles. Donc il y a des inventaires qui sont faits pour connaître au mieux, pour sauvegarder au mieux.
Et puis, évidemment, tout cela, on va pouvoir le parcourir tout l'été. Notamment, il y a des visites guidées comme on le fait là ensemble. Ben, nous, on en parlera demain avec d'autres petites choses également. Et puis, on s'interrogera sur finalement ce qu'est ce quartier de la boucherie aujourd'hui, parce qu'il est au cœur de la vie de Limoges, du Limoges des années 2000. On verra pourquoi dans notre ultime rendez-vous demain, même endroit, même heure, le temps de redescendre de quelques étages. Et c'est notre cinquième et dernier rendez-vous de cette semaine de découverte de ce quartier historique emblématique de la boucherie à Limoges que nous a fait découvrir, même s'il vous garde quelques petits secrets pour vous lors de visites guidées. On en parlera, je suis sûr qu'il ne nous a pas tout dit, Eric Bouteau, qui est guide conférencier à l'Office de Tourisme de Limoges. On a beaucoup parlé de l'histoire, évidemment, de ce quartier, mais la quartier de la boucherie, c'est un quartier d'aujourd'hui qui a un lien très direct avec un événement que tout le monde connaît, qui est un incontournable, c'est évidemment la féerie des petits ventres.
On vient de loin le troisième vendredi d'octobre pour apprécier voilà cette fête autour du goût. Alors la frérie des petits ventres, le nom suscite la curiosité et beaucoup de gens me demandent c'est quoi ces petits ventres. C'est pas le vôtre petit ventre.
Celui que vous allez bien remplir ici.
Ah, le petit ventre, c'est une spécialité. Ce sont les pieds d'agneau entourés, puisqu'on va farcir la panse d'agneau avec les pieds. Puis ils vont être mangés tièdes avec de la vinaigrette. Donc c'est un plat qu'on prépare souvent à la demande. Vous n'en trouverez pas naturellement comme ça chez tous les bouchers. Et à l'occasion de cette fête, ça ressuscite particulièrement. Et cette fête, elle a été reprise en 1973, au moment où le quartier de la boucherie se trouvait menacé. Il y avait des projets de destruction, de réaménagement urbain. À cette époque-là, quelques élus, pas tous. L'école du Barbichet. Il y avait aussi donc des bouchers. Et Renaissance du Vieux Limoges aussi, cette association qui sensibilise au patrimoine, se sont mobilisés pour rendre attractif ce quartier. Alors quoi de mieux, c'est de s'adresser au ventre. Voilà. Quand on parle au ventre, on parle aussi un peu à la tête. Ça a si bien marché qu'on a renouvelé cette fête régulièrement, et aujourd'hui ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont là concentrées en l'espace d'une journée, le troisième vendredi du mois d'octobre.
Donc on maintient la fête, mais il n'est toujours pas prévu de détruire le quartier, rassurons-nous, aujourd'hui c'est uniquement festif.
Alors on a été dans le bon sens.
Les femmes ont beaucoup compté, hein, d'ailleurs je crois aussi dans l'histoire de cette frérie des petits ventes, c'est un peu grâce à elles que tout ça a fonctionné, donc il faut leur rendre aussi hommage.
Oui, parce que cette fête qu'on a appelée la fête des petits ventres, c'était aussi une fête liée à une confrérie féminine qui était celle de Notre-Dame de Pitié, dont on voit toujours la statue dans la chapelle. En fait, on célébrait au mois de septembre à l'époque le fait de pouvoir à nouveau retravailler des plats qui étaient interdits l'été du fait des trop grandes chaleurs. Et quand on a refondé la frérie des petits ventres, on l'a déplacé au mois d'octobre.
Donc, voilà pour la partie historique. Alors aujourd'hui, ce quartier de la boucherie, on l'a dit, il est très ancré dans le quotidien de Limoges et des Limougeaux. On l'a dit, derrière nous, il y a ces terrasses de café où les jeunes ou les moins jeunes viennent s'attabler, passer un bon moment. Et puis il y a plein de bonnes tables, il y a plein d'artisans. On l'a dit, on a gardé le charme des façades, mais à l'intérieur, le commerce est plus vivant que jamais.
Oui, il y a de nombreux restaurants de toute gamme et qui ont un charme très appréciable quand on rentre à l'intérieur près d'un cantou d'une ancienne cheminée. Voilà, on est plongé dans l'époque. Et puis on travaille bien aussi la viande, et aujourd'hui, au-delà des plats, on va dire, typiques, on travaille aussi beaucoup la vache limousine, qu'on travaillait pas tant, comme je l'ai dit, dans le passé. Et puis, il y a tout le côté artistique, artisanal, de nombreuses boutiques qui travaillent ce qui a fait aussi la réputation de Limoges. Des émaux, des porcelaines, du tissu, et maintenant de jeunes qui se lancent pour trouver là en fait aussi un public, peut-être aussi de passage, un public de touristes, puisque cette rue, c'est le circuit incontournable quand on découvre Limoges. Il y a le petit train qui tourne très souvent dans cette rue. Et puis on est près des Halles, donc on a toujours cette ligne d'horizon.
On les aperçoit hein, quand on est dans la rue, là, à côté de la statue face à la chapelle Saint-Aurélien. On aperçoit l'angle des Halles, hein, juste au-dessus de nous.
On aperçoit bien la couleur orange de la brique. Et puis les carreaux de porcelaine qui, là aussi, sont synonymes de Limoges. Et finalement, si les bouchers sont partis au fur et à mesure dans les années 50-60, on a vidé la ville parce qu'il y avait plusieurs raisons à cela. Il fallait aller vendre dans les nouveaux quartiers, il y avait des problèmes pour arriver dans ces rues-là, des problèmes pour stocker, des problèmes de normes. Aujourd'hui, cette tradition, elle se perpétue notamment dans les Halles de Limoges.
Voilà. De bien bonnes choses, et pas que de la viande, hein, pour ceux qui n'en mangent pas. Il y a un trésor là-haut, hein, les fruits, les légumes, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a nous parlé de beaucoup de choses, mais il y a encore plein de secrets à dévoiler de ce quartier de la boucherie. Ça veut dire que tout au long de l'année, il se visite, et il y a plus forte raison l'été, évidemment.
Alors l'été, la maison de la boucherie est ouverte juillet, août, septembre. Et puis, nous faisons aussi, avec l'Office de Tourisme, des visites, des promenades gourmandes. Donc, renseignez-vous sur le site de l'Office de Tourisme. On fait non loin, d'ailleurs, des casse-croûte aux Halles à 6h30 du matin. C'est pas mal non plus. Donc, une bonne partie de l'année, on peut se laisser compter ce quartier-là, accompagné d'une voix qui connaît bien le lieu.
Avec des vidéo-guides également.
Oui, pour le volet plus technologique, vidéo guide qui permet de découvrir le quartier à son rythme, et donc vous téléchargez quand vous le voulez des petites vidéos qui montrent notamment un boucher en train de travailler, la vidéo de 1913 et plein de choses.
Encore une fois, un beau mélange entre l'histoire et la modernité finalement, c'est un beau symbole.
Un beau symbole, et puis ce quartier a beaucoup d'atouts dans notre présent, où il y a beaucoup d'amateurs de patrimoine dans notre ville qui s'ouvre de plus en plus aux étrangers. C'est une curiosité qu'il était déjà au 19e, mais maintenant une curiosité où on en tire surtout le meilleur, puisque on va dire que les odeurs qui pouvaient répudier aujourd'hui ne sont plus là.
Et quand on est guide et qu'on arpente régulièrement ces rues, on ne s'en lasse pas, on apprécie toujours de s'immerger dans cette ambiance tellement particulière, dans cette bulle, on a l'impression d'être un peu coupé du monde moderne.
Oui, tout de suite on est pris dans ces ambiances-là, et c'est vrai que selon l'heure dans laquelle vous allez passer, en nocturne, en été, il y a un charme fou, on apprécie voilà, de se retrouver là.